Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Aujourd'hui, un invité pour nous parler de la revue Verdon et de l'association Pays et gens du Verdon, qui est une association qui existe depuis pas mal d'années.
Donc c'est une association qui existe depuis 1991, qui est née à Artignos-sur-Verdon et qui a toujours pour but de faire connaître notre culture provençale. Alors au début, dans les années 91-99, nous avons organisé des classes patrimoine qui étaient autour du lac de Sainte-Croix et qui étaient basées à Éguines. Et puis en 1999, les locaux que nous occupions, qui nous étaient prêtés par la caisse d'allocation familiale du Var, n'ont plus été aux normes. Donc on n'a plus faire ces classes patrimoine et donc nous nous sommes tournés vers une revue littéraire, géographique, historique, enfin, qui balayait pas mal de thèmes et de sujets. Et donc, nous avons commencé cette revue qui, au départ, est parue 3 fois par an et qui, aujourd'hui, n'est plus qu'à 1 numéro par an, mais de plus de 160 pages. Nous en sommes au numéro 72.
72 déjà. Excusez-moi, mais je ne vous ai pas présenté Francis Martel, qui est
président de l'association.
Voilà. Président de l'association Pays et gens du Verdon.
C'est ça.
Depuis le début de la création.
Non. Je ne suis président que depuis 2009. Auparavant, il y avait M. André Inaudi, qui fait partie toujours du comité de rédaction de la revue.
Alors, comment ça se passe pour faire ce type de revue qui est quand même assez conséquent au niveau du nombre de pages et bien sûr du contenu comment vous vient le...
Alors, nous sommes entre 7 et 10 rédacteurs, mais ce n'est pas vraiment le mot, puisqu'on n'écrit pas toujours dans la revue. Hein. Ce sont des personnes qui sont aussi bien de Digne que de Riez, que de l'Orque, de Castellane, que de Draguignan. Donc nous nous réunissons une fois par mois. Très habituellement, nous sommes à Moustier, au Parc Naturel Régional, qui nous accueille, et je les en remercie. Et donc nous débattons des articles que nous allons introduire dans ce numéro. Alors d'abord, évidemment, nous choisissons un thème qui ne suit quand même pas pendant toutes ces pages, le thème n'est pas traité uniquement. Nous avons à la fin du livre un mesclun, c'est-à-dire des articles qui sont hors thème, et un mesclun qui peut être important ou très réduit. Ensuite, une fois que nous avons choisi le thème, chacun d'entre nous dit « ben moi je connais monsieur machin ou madame machin qui peut nous parler de ceci ou de cela ». Soit les personnes écrivent elles-mêmes l'article, soit si elles n'ont pas l'habitude de l'écriture, si elles ne se sentent pas de le faire, nous allons les voir, nous les interviewons et à partir de ce moment-là, nous écrivons le texte que nous soumettons à leur approbation. Pareil pour les images, on demande les photos, on demande soit des photographes professionnels, soit les personnes ont des photos en rapport avec l'article qu'elles nous donnent. Soit nous avons nous-mêmes un bon stock de photos et nous les introduisons dans le livre en rapport évidemment avec chaque article. Ensuite, nous avons une maquettiste qui est actuellement basée à Gap. Donc nous traitons avec elle par téléphone parce que quand même Gap c'est déjà un petit peu plus loin. Et nous avons un imprimeur à Marseille. Voilà. Nous avons déjà traité énormément de thèmes, hein, en 72 numéros, vous en doutez.
Mais est-ce que c'est toujours la même équipe de rédacteurs
Non, malheureusement, nous avons eu des rédacteurs qui sont décédés, qui étaient des personnes très très cultivées. Nous sommes pas, enfin, certains sont là depuis le début, depuis il y a 25 ans, mais il y en a qui n'y étaient pas, certains autres ont fait autre chose. Mais on a toujours réussi, sans trop se disputer, à écrire et à mettre dans cette revue des choses suffisamment intéressantes pour garder un lectorat. Un lectorat qui est très éparpillé.
Voilà, et donc on trouve cette revue dans les librairies
Par exemple, à Digne, à La Ruelle, à Draguignan, à Papier Collé, À Riez, c'est à la presse. À Ops, c'est à la librairie Caractère Libre. Donc, nous essayons de... Mais enfin, le problème d'être partout présent, le problème, c'est que nous sommes tous, et j'insiste là-dessus, des purs bénévoles. Les gens qui écrivent des articles chez nous ne sont jamais payés, hein, articles, que ce soit des photos ou des textes. Et nous n'avons pas de commercial qui pourrait davantage nous promouvoir. Mais bon, nous n'avons pas les moyens de nous payer au commercial. Pour finir là-dessus, nous sommes subventionnés uniquement pour l'instant par la région Sud. Et quelques mairies nous donnent des sous là depuis l'année dernière. Mais bon, jusqu'à présent, on a réussi, entre les abonnements et la subvention, à demeurer, à arriver donc à 72 numéros.
Donc, en général, ce sont des abonnés qui font vivre le journal aussi, donc.
Oui, c'est la revue. Oui,
c'est ça. Et ça se passe comment? C'est un abonnement annuel?
Jusqu'au numéro 69, nous avons fait 3 numéros par an, mmh, qui étaient moins épais que celui que nous faisons désormais depuis le 70, qui comporte plus de 160 pages. Les personnes nous envoient un chèque et on leur envoie la revue. Voilà, mmh, c'est tout simple. Bon, il y en a beaucoup qu'on connaît. Et puis, la revue, désormais, est couplée avec l'adhésion à notre association. Association qui fait autre chose, c'est-à-dire qui organise des conférences souvent par rapport à nos livres, mais aussi pendant 8 dimanches par an, nous faisons des promenades culturelles où nous ne marchons pas pour marcher, nous marchons pour expliquer le paysage, pour expliquer l'histoire, pour voir des monuments. Et donc là aussi, ce sont des personnes qui viennent aussi bien de Aix que de la Côte d'Azur, et qui participent à nos baroulades, c'est comme s'appellent ces promenades, et qui sont attirés par l'ambiance de notre association, qui n'est pas une association sportive.
Donc vous êtes un peu le substitut de guide touristique.
Oui, mais gratuit.
Oui, voilà.
Et puis, nous n'empruntons pas toujours des sentiers, même la plupart du temps, nous n'empruntons pas toujours des sentiers balisés, parce que nous connaissons le pays, et donc ça permet de voir des choses qu'on n'a pas dans les guides.
Donc c'est de véritables passionnés du territoire, du Verdon, qui forment cette équipe enthousiaste. Il n'y a pas des moments de lassitude pour ceux qui...
D'abord, nous sommes actuellement, nous sommes entre 8 et 10. Donc, ce sont des personnes cultivées, ce sont des personnes qui ont une forte personnalité, qui sont tout à fait intéressantes. Et même en se renouvelant, on a réussi à conserver. Tout le monde nous dit, oh là là, 25 ans, beaucoup d'associations... claque bien avant. Mais bon, on est animé. Vous savez, Saint-Exupéry disait, s'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Donc, nous regardons dans la même direction, qui est la diffusion de notre culture des Alpes, à la fois le Haut-Var et les Alpes de Haute-Provence. Mais nos articles débordent parfois sur le 05, vers Marseille ou vers Nice, je veux dire, nous. Verdon, la revue Verdon prend un S, c'est bien pour
vous
dire
poser
que
la
nous
ne
sommes pas fermés sur strictement le territoire. Mais enfin, nos
Pourquoi
articles...
Pourquoi Verdon avec un S, alors c'est,
c'est pour montrer quand même une espèce d'universalité de notre initiative. Pour voir que... montrer qu'on n'a pas de barrière, qu'on n'est pas complètement retréci sur... un localisme complètement fermé.
Donc, c'est des promenades culturelles régulières.
Oui.
C'est des réunions, évidemment, pour préparer la... Oui. Des réunions mensuelles pour préparer la revue.
Oui.
Et puis, alors, il y a aussi des expositions, des,
oui.
Alors, des ateliers.
On a eu plusieurs initiatives. On a fait 5-6 livrets de 40 pages sur... des sujets précis comme la représentation picturale de Moustier, l'histoire de Isidore Blanc qui a été le co-découvreur, sinon le découvreur du sentier qui ensuite s'est appelé le sentier Martel au fond des gorges, mais qui depuis une dizaine d'années s'appelle le sentier Blanc-Martel, parce que Édouard-Alfred Martel, qui venait de Paris, et qui était un grand géologue et un grand bourgeois parisien, il n'est pas arrivé là comme sur la planète Mars. Hein. Il y a bien quelqu'un qui était Isidore Blanc, cet instituteur de Rougon, qui connaissait parfaitement son territoire, qui l'a guidé. Sinon, il n'aurait rien trouvé du tout.
Donc, le sentier Blanc-Martel, voilà.
Voilà.
Je voulais qu'on revienne un peu sur le contenu de ce numéro 72, donc, qui s'appelle « L'an haut ». Vous parliez de Christiane Belleuil, que j'ai bien connue.
Oui, qui s'est occupée des bibliothèques du 04 pendant de nombreuses années.
Et donc, elle a écrit un article,
régulièrement un article littéraire et poétique sur Ghana Gobi, qui est un très bel article, qui parle, des hauteurs. Mais... Et puis, nous avons des articles sur des endroits nettement plus hauts. Enfin, notre thème de départ, c'était « Crête et sommet ». Donc, on a trouvé ce titre pour... c'était peut-être plus original. Mais nous avons traité à la fois de la toponymie des sommets, avec Delphine Isoardi, qui est une basalpine, Irène Magnodex, qui a aussi parlé d'une autre façon des noms des sommets et de leur organisation. Donc, nous avons parlé des oppidas du Verdon, ces enceintes de pierre de la Provence pré-romaine. Et il y a des articles littéraires. Il y a aussi des articles sur le Verdon vu de haut par les parapentistes. Je remercie le CDL04 de nous avoir procuré ces photos. Il y a un article sur les cairns qui couronnent les sommets souvent et qui sont parfois très originaux. Ensuite, on peut aussi parler de...
Il y a Jean-Claude Barbier, il y a Berthe Pélestor, oui. qui parle donc...
Didier Leclerc,
vous-même, Francis Martel, Claudine Magnier, si mes sommets, est-ce qu'on peut...
Il y a un article sur le Chiran, par exemple.
Oui.
Le Chiran, le mur de Chanier. Donc, à part la toponymie, bien sûr, il y a un article sur les écrivains de Haute-Provence qui ont, avec quelques extraits, notamment un extrait du livre de Magnan qui s'appelle L'Aube insolite, qui est son premier roman, qui n'est pas un roman policier, mais un roman sur l'occupation et la guerre dans un village des Hautes-Alpes. Donc, il y a des extraits, des pages qui sont très belles. Hein. Il y a aussi quelques extraits de Giono et des extraits de l'écrivain du Haut-Var, Gaston Covin, qui dans les années 50-60 a beaucoup écrit sur ce territoire. Et donc, je tenais à ce qu'il y ait quand même la présence de ces écrivains de Haute-Provence qui ont donné leurs lettres de noblesse à nos territoires. Bien sûr, il y a aussi un article sur les tables d'orientation qui couronnent les sommets de façon générale. Hein. D'autres articles sur les nids d'aigle, c'est-à-dire les gens qui se sont par le passé installés très très haut, hein, certains tout près du mur de Chanier. Donc c'était vraiment une façon de vivre pour laquelle on ne peut avoir que de vagues idées, parce qu'il n'y a pas d'eau, il fait froid, etc. Mais ça a existé aussi. Didier Leclerc nous parle de son retour ou son installation à Archaï, donc à Montagnage, c'est-à-dire comment il est monté vers les montagnes et il s'y est installé. Il est photographe et écrivain, Didier Leclerc. On a aussi des poèmes de Claude Brown, qui est dinois, hein, qui parsème le livre. Aussi des articles en provençal, alors aussi bien par Jean-Luc Domange, qui a relevé sur La Baume et Courchon, c'est-à-dire tout près de Castellane, des souvenirs de personnes qui lui parlaient en provençal de leur vie en montagne, et aussi quelques articles en graphie alibertienne, c'est-à-dire occitane plus classique. Nous avons un article sur le Chiran, et puis qui a abrité un observatoire et qui abrite toujours un observatoire, mais avant, alors qu'avant c'était le CNRS, maintenant c'est une association de Blieux qui gère cet observatoire où on peut aller passer des nuitées, faire un stage, etc. Il y a aussi un article sur la quille, c'est-à-dire ces espèces de repères qu'utilisaient les géomètres avant les satellites. Alors, la quille, c'est à la colle Saint-Michel, et c'est principalement pour arriver à tracer le chemin de fer qui passe entre Méaille et Saint-André-des-Alpes. Il y a un tunnel de 6-7 km, et donc pour le tracer, ils avaient installé à certains endroits des soit en bois, et là on ne les trouve plus parce que depuis le temps, hein, le chemin de fer c'est 1900, hein, à cet endroit-là. Donc, mais à la colle Saint-Michel, il y a la base en pierre de ce repère qui permettait par la triangulation d'arriver à faire coïncider, et c'est ce qui a marché parce qu'ils ont attaqué le tunnel d'un côté et de l'autre et ils sont tombés à quelques centimètres près, c'était impeccable. Donc, il y a aussi un article, comment dire, à contresens, c'est-à-dire, on pense à en haut, en altitude, mais dans les gorges du Verdon, en haut, c'est en haut des falaises. Et donc, il y a un article sur tous les secours, les pompiers, comment ils font pour aller chercher les gens qui se sont accidentés. Et donc, c'est un article détaillé sur la progression de ces secours. Guy Raymond, le monsieur qui s'occupait des archives il y a quelques années, qui maintenant est retraité,
a
écrit sur le crash de la Bigue du Ciron, mm-hmm. C'est tout près de Digne, et cet avion qui s'est écrasé. Et puis ensuite, dans le Mesclun, c'est-à-dire dans la partie qui n'est pas sur le thème, on parle d'un sculpteur qui est sur Calas, pas loin du Verdon, et aussi sur un aquarelliste d'Ops dans les années 40. Et on continue notre aventure sur les mots provençaux qui ont basculé dans la langue française. J'allais oublier quelqu'un qui est très près de Digne aussi, c'est Christophe Eugène, qui s'occupe de musique, qui joue parfois en hauteur avec son camarade accordéoniste qui s'appelle Eric Caza. Par exemple, il joue de la musique, évidemment sans ampli ni rien, au bord du lac d'Alos. Et il est très présent dans beaucoup de réunions et d'événements autour de Digne et du Haut-Verdon. Voilà. C'est un panorama de ce livre qui n'est pas exhaustif, hein, parce qu'il y a d'autres articles que vous pourrez voir si vous l'achetez. Mais bon, j'espère avoir donné envie à.
Est-ce que vous ne voulez pas nous lire un extrait peut-être de ce que vous avez écrit vous ?
Alors en quoi ? En provençal ou...
En provençal, moi qui n'en fais pas, je ne pourrais pas... À moins que vous nous donniez la traduction après ou avant.
Oiseau. Dans l'homme, il y a quelque chose de l'oiseau, de l'animal qui vit dans le ciel. À ce niveau-là, je répète en provençal, c'est « aousseu », les oiseaux, donc c'est bien « au ciel ». Mais nous, on dit « oiseau » en français. Dans l'homme, il y a quelque chose de l'oiseau, de l'animal qui vit dans le ciel. Le besoin de voir au loin, l'illusion de voler d'une colline à l'autre, d'une haleine à l'autre, de monter, haleter, suer, arriver en haut, inspirer, enfin. S'échapper des fonds, de la bruine, du gel, des brouillards. Se délivrer, se désenchaîner du poids des jours, oublier les horloges, l'accablement du temps. Quand tu ne sais plus où aller, t'arrêter en haut et mesurer l'espace, l'éloignement des gens, du système, de la contrainte. Considérer sa propre dimension, celle des constructions humaines, des nichés perdus dans l'arbre géant. Suivre une crête, passer sur le bord des pentes, entre deux mondes, deux choix, deux anéantissements. Abandonner au loin les divinités marchandes, les lares domestiques, les intercesseurs de la soumission et rejoindre le Janus aux faces splendides. Chanier, Chiran, Théon, Barbin, Margès, Chamaï, La Chaise. Guetter, les yeux humides de vent et d'émotion, le monde brut, le monde vrai qui te dit que tu n'es rien, que partant de cela, tu peux commencer à vivre. Les sommets ne mentent pas.
Donc ça, Francis Martel, vous venez de nous le lire en France, enfin en français,
oui,
et dans le livre, il est écrit en occitan.
Au départ, c'est écrit en occitan. Mais bon, on pratique toujours la traduction, parce que vous avez des personnes qui ne connaissent pas du tout le provençal. « Di l'homme, il y a qu'au carin de l'ausseu, da qu'au bestiari qui vit l'ausseu. L'oubezoun de veillera au loin, la farfantelle dévoula d'une colle à l'autre, d'une haleine à l'autre, l'autre, des Munta, Baselena, Susa, Arriba, Amundao, Inspira, enfin. S'escapa des fous, d'au blazing, d'au gélibre, des nebles. Se deslura, se désencadena d'au pes de Dieu, oublida les reloge, l'acclapament d'au ten. Conte sa baisse plus untana, la resta un out et mesura l'espace. La lune chamène des gens, dans le système de la contrèche. À quoi va pas n'a plus loin. J'ai oublié de dire qu'il y a un article sur « À quelle est montagne ?» qui est l'hymne occitan, « À quelle est montagne ?» qui est en haut dessous. Et ben, ce sont les montagnes, c'est pour ça que nous en avons parlé. Après, ce que je pourrais vous dire aussi par rapport à notre association, c'est qu'elle vient de publier en troisième édition le livre de Jacques Crus sur l'histoire des gorges du Verdon. Donc auparavant, c'était un livre qui était en noir et blanc, avec des photos en noir et blanc, qui est épuisé depuis 2006-2007, parce que c'est une référence sur l'histoire des gorges du Verdon. Jacques Crus y a consacré une trentaine d'années de sa vie avant de décéder il y a 5 ans. Et donc, c'est toujours un livre qui fait référence par rapport au village et à la vie des gorges du Verdon dans le passé jusqu'à la Révolution. Je précise que ça s'arrête jusqu'à la Révolution, alors qu'ensuite, Jacques Crus a fait un livre sur l'histoire de Châteauneuf-les-Moustiers, qui est un village désormais abandonné derrière la Palue sur Verdon. Et donc nous avons voulu le faire avec des photos en couleur. Et on l'a fait en collaboration avec le Parc naturel régional du Verdon, qui le vend, si vous le désirez, vous faites PNRV, enfin, sur Internet, on vous dira toute la marche à suivre.
Vous pouvez me rappeler le titre de ce livre ?
Histoire des gorges du Verdon jusqu'à la Révolution.
D'accord.
Jacques Crus, c'est l'auteur.
Et commandé auprès du Parc du Verdon ?
Au Parc du Verdon, au PNR. D'accord. Je pense avoir fait le tour.
Donc là, vous êtes déjà en train de préparer la prochaine revue.
Oui.
Parce qu'il faut vraiment s'y prendre en avance. Ben oui, ça demande beaucoup de travail.
Il faut déjà un an, parfois, c'est pas assez important comme délai de temps. Donc, on le fait d'une année sur l'autre. Le prochain numéro parlera de toutes les dualités de notre territoire. Dualité été-hiver, lieu très fréquenté, lieu pas fréquenté du tout, personnes qui ont une vie qui est à l'opposé d'autres personnes qui vivent pourtant sur le même territoire. Donc nous allons explorer tout ce thème.
Francis Martel, donc ça c'est le numéro 72 qui est en vente actuellement. Comment on devient adhérent ?
Alors c'est très simple, vous faites un chèque de 30 euros à l'ordre de Pays et Jean du Verdon. Et l'adresse est 51 chemin de l'air, l'apostrophe IRE, 83 840, comme sur Artubi. Et donc on vous expédie la revue de cette année, c'est-à-dire le numéro 72 sur les crêtes et les cimes. Comme sur Artubi, ben, nous sommes une commune tout proche du Grand Canyon du Verdon.
30 euros à l'ordre de...
Pays et Jean du Verdon.
Pays et Jean du Verdon. Et ça donc 30 euros
par année.
Par année. D'accord.
Pour l'adhésion et le livre.
D'accord. Voilà. Et sinon, c'est pareil, on achète le livre 30 euros
Non, le livre est en vente donc à Ops, Caractère Libre, à Digne, La Ruelle, à Draguignan, Papier Collé, à la presse de La Palue-sur-Verdon, à la presse de Riez, à Castellane, à la presse aussi. Et donc, là, il est à 22 euros.
22 euros, d'accord.
Oui, nous avons un tout petit prix d'adhésion.
Eh oui, ouais, ouais, voilà. C'est sûr. Tout est dit par rapport à cette sortie, cette parution et vos projets. Donc,
voilà. Bon, nous remercions bien la région qui nous soutient,
ouais.
Les mairies qui nous soutiennent. Voilà.
Merci beaucoup, Francis Martel.
Eh bien, je vous remercie Fréquence Mistral de m'avoir reçu.
Je ne vous ai pas demandé, donc vous parlez le provençal depuis tout petit, vous l'avez appris.
Oui, parce que je suis né à Comme-sur-Artubie, mm-hmm. Et mon père est un pur verdonien, donc j'ai entendu ça depuis tout petit.
Et vous étiez dans quel... J'imagine que vous êtes retraité.
Oui, oui, je suis retraité.
Vous étiez dans quel corps de métier?
Voilà, j'étais enseignant.
Enseignant.
Voilà, et directeur d'école.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée.
Bonne continuation.
Au revoir.